Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Shalom Dijon, vous êtes dans votre émission Mémoire et Transmission et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Pascale Goutani, inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale en histoire-géographie. Elle va nous expliquer un petit peu ce que cela recouvre, parce que pour moi c'est assez inconnu. Bonjour.
Bonjour.
Nous vous avons invité parce que vous êtes au cœur de très belles expériences pédagogiques qui travaillent sur la question en histoire, sur la question de la mémoire et de la transmission, notamment autour de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Donc c'était l'occasion de comprendre ce qui se passait, ce qui était possible à l'intérieur de cette grande institution en la matière pour bien former des élèves ayant des connaissances, mais aussi avoir un esprit critique.
Bien, je vous remercie pour cette invitation. Donc oui, je suis inspectrice en histoire-géographie, mais plus particulièrement référente mémoire et citoyenneté, donc qui donne une dimension un peu plus transversale. C'est bien sûr, les preuves d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique sont au cœur de ces préoccupations, mais beaucoup, beaucoup de disciplines aussi dans des projets transversaux ou dans leur propre enseignement, dans leur propre discipline, participent vraiment à ce travail des mémoires et de la transmission de ces mémoires, donc dans l'éducation nationale, pour qui c'est un sujet extrêmement important. C'est être référent mémoire et citoyenneté, c'est le cas de collègues. Dans chaque académie, il y a un référent parce que c'est une thématique extrêmement importante et une des missions de l'école, avec un majuscule, que ce soit du primaire, du secondaire, c'est extrêmement important. Ça participe à la formation de citoyens éclairés, à la formation culturelle, à la formation historique, extrêmement importante de tous nos élèves. Donc c'est une des missions de l'école, que l'on fait avec de nombreux partenariats, parce que l'école toute seule ne peut pas arriver à cette mission qui est très ambitieuse. Donc, bien sûr, il y a les cours, bien sûr, il y a les professeurs, mais qui sont très, très engagés souvent dans des partenariats que l'institution soutient, que l'institution peut impulser, puisque nous faisons des conventions de partenariat, nous essayons de créer des conditions favorables, nous essayons de trouver des financements pour aider tous les professeurs qui s'engagent dans cette mission. Pour parler évidemment de l'Académie de Dijon, nous avons par exemple des partenariats avec le Mémorial de la Shoah, avec le Camp des Milles, avec l'Institut du Monde Arabe, avec le Comité français pour Yad Vashem, avec Parlons Démocratie, la Fondation pour la mémoire d'esclavage, et j'en oublie certainement, et je m'excuse auprès de ces associations, et aussi toutes les associations locales, les sections départementales ou régionales, du Souvenir français, de l'Ordre du Mérite, de la LICRA, etc., avec lesquelles on travaille toutes les fois que c'est possible, parce que cette richesse complète en fait ce que l'école peut déjà apporter aux élèves. C'est une synergie qu'il faut créer pour donner le meilleur aux élèves dans leur formation.
Je pense, Madame Goutani, qu'il serait intéressant que vous nous présentiez un ou deux exemples de ces projets pédagogiques transversaux, de manière à ce que nous comprenions bien les enjeux et ce que ça peut amener aux élèves.
Des exemples de projets
d'expériences que vous avez réalisées, enfin que les enseignants ont réalisées, que vous avez suivies, qui ont été soutenues par l'institution, j'imagine.
Oui, nous soutenons énormément de projets. Alors, l'institution à la fois s'investit dans des formations et aussi dans la mise en relation, en fait, avec tous les partenaires dont je vous ai parlé, bien sûr. Et puis après, nous avons des projets tout plus particuliers. Par exemple, nous avons eu la grande chance d'être sollicités par le Mémorial de la Shoah pour tester des voyages de mémoire, d'histoire et de mémoire qu'ils voulaient faire sur le territoire français. Parce qu'ils avaient un petit peu des réticences, c'est-à-dire que des élèves jeunes aillent à Auschwitz, par exemple, Et donc, nous avons demandé à des professeurs s'ils étaient partants pour accompagner leurs élèves. Nous leur avons demandé aussi, ça veut dire travailler en amont avec le mémorial de la Shoah sur ces projets, pour que ça ne soit pas seulement on vous offre un voyage et puis voilà, vous l'exploiterez après. Il faut que les élèves donc on travaillait aussi sur la restitution, sur des restitutions sur ces projets. Donc on essaye aussi, l'institution c'est son rôle, de faire participer à tous ces projets des établissements qui sont répartis sur tout le territoire, hein, donc qui sont peut-être parfois plus loin, plus enclavés par rapport aux structures culturelles, par rapport aux lignes de transport, etc. Donc là, des élèves des 4 départements sont partis. Ensuite, nous soutenons bien sûr les projets qui sont à l'initiative, hein, bien sûr, là c'était une initiative finalement institutionnelle et partenariale. Nous soutenons les projets qui sont à l'initiative de professeurs. Donc je pense que vous avez la chance d'écouter déjà des professeurs pour expliquer leurs projets. Dimitri Vouzel, par exemple, au lycée Charles de Gaulle. Solène Lévesque pour un collège Claude Pouilly, ont mené différents projets qui allient à la fois donc un travail d'histoire, de littérature, d'éducation aux médias, l'information, et qui ont été souvent récompensés, hein, par des prix académiques, des prix nationaux. Le prix Ilan Halimi, par exemple, pour Claude Pouilly. Donc, des projets qui voulaient faire comprendre aux élèves sur place, hein, puisqu'il y avait des déplacements, mais aussi par un travail de recherche de leur part, par une pédagogie très active. Ils avaient un objectif. Ils n'avaient pas seulement « on prépare un voyage » ou « on fait un carnet de voyage », dans le cas, je pense à Claude Pouilly, le projet K, réhabiliter sur le mur des noms, rectifier l'orthographe sur le mur des noms du mémorial de Shoah, c'était pour les élèves, en fait, finalement, contribuer à un travail d'histoire personnel. Dans les projets avec Dimitri Vouzel, puisque je parle de 2 podcasts existants également, il y a un vrai travail d'archives, un travail où les élèves sont en contact avec les originaux dans des archives et retracent la vie, redonnent une lumière sur des personnes qui ont vécu à Dijon, qui ont été déportées et qui retrouvent un petit peu de lumière. Et tout ça pour les élèves, mais aussi avec, pour les élèves, la possibilité de le présenter aux familles. Hein, et donc de se dire que non seulement ils ont fait un travail d'histoire, non seulement ils ont redécouvert ou fait redécouvrir, mais ils ont rendu quelque chose à ces familles. Donc on a des projets où aussi on travaille finalement sur des qualités humaines à développer, hein, sur apprendre à devenir un historien, hein, c'est la démarche d'histoire qu'ils font, c'est travailler pour d'autres et pas seulement pour eux, et c'est aussi, ça fait partie de l'ensemble. On est très très sensible au fait que ça développe autre chose que des connaissances, mais aussi des compétences sociales, une empathie avec des personnes qu'on n'a pas rencontrées, puisqu'elles ne sont pas de notre époque, mais qui ont traversé les mêmes lieux, qui auraient pu être des proches. Et ça, c'est très important pour que ça soit concret pour les élèves. Il faut qu'on soit sur des trajectoires de vie, hein, qui sont importantes. Et puis nous développons aussi, nous aidons toutes les fois qu'on peut, des projets qui sont sur différentes mémoires. Hein. Là, on a parlé de la mémoire de la Shoah, mais les autres mémoires sont extrêmement importantes. Et là, nous travaillons un projet sur Manouchian, parce que nous pensons que la richesse de la France, c'est sa diversité, et la mise à l'honneur de Manouchian, c'est quelque chose qui dépasse l'étude de cette période, qui est quelque chose qui forme des citoyens aussi, comprendre que c'est notre richesse en France, et que notre richesse et notre histoire dépend et a dépendu de personnes de différentes origines, venues récemment ou moins récemment d'ailleurs, et que c'est ça qui fait la France et dont on est très fiers.
Vous parliez donc des élèves volontaires, engagés, qui ont fait un travail, qui ont conduit le travail jusqu'au bout, hein, je crois que de très beaux résultats d'ailleurs, hein, et dont les travaux sont transmis, parfois même sur le plan national, ne serait-ce qu'à travers les podcasts. Qu'est-ce qu'il en est des autres élèves? C'est-à-dire que quand un travail est fait, ce groupe motivé qui avance, est-ce que c'est restitué aux autres élèves du collège pour pas créer de dissension, de tension, voire même de rejet, parce qu'on pourrait dire voilà, eux ils ont eu droit, c'est l'élite, nous on n'a pas pu ou on n'a pas voulu. Enfin.
Oui, on essaye toujours, mais les professeurs en sont souvent très très convaincus dès le départ, qu'un projet ne doit pas se concentrer sur un petit groupe, qu'il doit avoir après une résonance dans l'ensemble de l'établissement, voire au-delà. Hein. Il y a des travaux qui ont été faits, dont on a après fait diffuser. Alors ça peut être par exemple une exposition numérique, ça peut être une exposition itinérante, ça peut être des travaux de radio, ça peut être des travaux sous différentes formes. Il y a eu des projets très très intéressants d'élèves qui ont travaillé finalement pour fournir un album à des enfants très jeunes. Donc en fait, leur objectif, c'était de faire comprendre quelque chose qu'ils avaient étudié à des élèves plus jeunes d'une façon attractive et en parlant entre jeunes, mais avec quand même un décalage des collégiens pour des primaires, par exemple. Donc l'idée qu'on soutient, c'est qu'il faut que le plus grand nombre d'élèves bénéficient de ces projets, hein, que ça ne reste pas. Et puis dans un établissement, quand un projet est monté, il peut rarement évidemment mettre tout le monde dans la boucle, mais il doit avoir des temps, hein, où c'est présenté aux autres, où c'est, il y a aussi des pièces de théâtre qui sont montées, il y a des qui sont présentées aux autres élèves pour en fait que ça soit aussi un aboutissement pour ceux qui ont travaillé et puis une découverte pour ceux qui n'ont pas été dans ce groupe, qui ne sont pas de ce niveau de classe par exemple, donc ça ne correspond pas à leur programme, mais qui vont comprendre énormément de choses parce que c'est leur père qui leur parle.
Dans vos charges, vous êtes référente académique, donc mémoire et citoyenneté. On vient d'évoquer largement la question des mémoires et de la transmission. Il y a le mot citoyenneté. Alors, comment vous reliez ces deux concepts, ces deux questions?
Alors, la citoyenneté, c'est très, très vaste. Alors, les référents mémoire et citoyenneté appartiennent déjà tout le temps, dans toutes les académies, au groupe Valeurs de la République. Donc, le groupe Valeurs de la République sont chargés à la fois de faire des formations dans tous les établissements sur ces valeurs, des formations assez pratiques, où on est sur des études de cas, s'il se passe telle ou telle atteinte à une valeur de la République, comment faire, mais aussi, surtout, comment promouvoir ces valeurs, parce que ce n'est pas tout de réagir, ce n'est pas l'essentiel. On voudrait ne pas avoir à réagir, mais seulement avoir à former. Et puis, la citoyenneté, c'est soutenir aussi tous les projets qui parfois se mêlent d'ailleurs à des projets mémoriels, qui veulent enseigner la démocratie d'une façon là aussi active, faire comprendre l'importance, mais aussi la fragilité de la démocratie à des élèves par des actions concrètes, des simulations de débats, du travail sur... avec Parlons Démocratie, un travail dans des établissements volontaires sur la réécriture par les élèves du règlement intérieur. Dans des établissements où il était à refaire parce qu'il était obsolète, ou dans des établissements où il était contesté, par quelques élèves, souvent des poignées, mais on s'est dit c'est l'occasion aussi de voir, parce que oui, mais pourquoi une fille, elle ne peut pas avoir une jupe courte alors qu'un garçon vient en Bermuda, etc. Qu'est-ce que ça veut dire un vêtement décent? Pourquoi le téléphone, c'est autorisé si c'est quelque chose de pédagogique, mais pour nous, c'est vraiment un moyen de communication, pourquoi on ne peut pas avoir le téléphone dans un collège? Bon, tout un tas de choses comme ça, et les faire travailler, alors déjà à poser toutes ces questions, à débattre entre eux, à débattre avec des juristes, à débattre avec des adultes de la commune, de l'établissement, enfin bon, tous ceux qui sont dans des conseils d'administration, et leur faire essayer de travailler, leur montrer aussi que ça dépend d'un code de l'éducation, donc c'est pas quelque chose qui est imposé par des adultes qui veulent tout régir, tout interdire, mais que c'est quelque chose qui suit certaines règles, qui a certaines libertés hein, dans la rédaction, mais qui a aussi des choses qui correspondent à nos codes de loi. Et ce travail, c'est très formateur, parce que les élèves se sont confrontés à des difficultés, ont compris qu'il y avait certaines choses, c'était pas possible. Et puis au moment même de rédiger, il fallait encore s'entendre sur la façon de l'écrire et une façon qui soit correcte dans le droit, hein, même si c'est seulement, si on peut dire, un règlement intérieur. Et ça, c'est vraiment, on s'est dit, là, on fait des citoyens. Ils vont avant, après, de critiquer tout ce qui peut être écrit. Ils vont se dire, oui, mais il y a des règles, il y a une façon de voir, il y a une réflexion à mener, c'est pas comme ça, ça arrive pas comme ça. Donc ça, c'est un exemple très concret. On l'a fait travailler aussi donc beaucoup sur des débats, sur des questions qui les concernent, le vote à 16 ans, voilà, des choses, les réseaux sociaux, la modération des réseaux sociaux. Ils ont leurs idées de départ, et puis on va leur demander d'argumenter, de chercher, de parfois soutenir des positions qui ne sont pas les leurs. Et puis après, hein, d'en discuter avec des professionnels, hein, soit justement des réseaux sociaux, des juristes, etc., pour voir que les choses ne sont pas blanches ou noires, mais qu'il faut aussi peser ces arguments et puis réfléchir. Et c'est comme ça, hein, c'est la construction de l'esprit critique. Et c'est la démocratie scolaire, de la démocratie sur des exemples précis qui peuvent les concerner. Ils peuvent aussi proposer les sujets, hein, qui seront les sujets d'études. Donc là aussi, il faut qu'ils s'entendent quel sera le sujet qui sera débattu. Donc il y a déjà un premier débat, un vote, et puis après on travaille sur ce sujet-là et on fait appel. Donc le rôle du référent Mémoire et Citoyenneté, ça va être aussi de trouver les associations, les professionnels qui vont après travailler avec ces établissements qui ont montré leur volonté de travailler ainsi. Mais beaucoup, beaucoup d'établissements souhaitent mettre en place cette pédagogie active hein, sur des sujets comme ça, parce qu'on apprend en faisant vraiment. Hein, et ce sont des futurs citoyens, mais ils ont déjà hein, des activités de citoyens à l'échelle de l'établissement qui sont possibles à développer.
Par rapport à ces travaux, alors surtout quand il est question de sortir de l'établissement, comment les parents sont associés? Parce que ce sont des enfants mineurs pour la plupart. Donc, comment les parents sont informés? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est important?
Ah oui, c'est tout à fait important. Par exemple, bon, je reprends, je file l'exemple du règlement intérieur. Il y a des parents dans l'écriture, puisqu'il y a des parents, les fédérations de parents ou des parents représentants sans être affiliés à une fédération sont là. Dès qu'il y a une sortie pédagogique liée au programme scolaire sur le temps scolaire est obligatoire parce que c'est une méthode pédagogique. Donc les parents sont informés évidemment, mais ne peuvent pas s'opposer à partir du moment où on développe quelque chose qui est lié à nos programmes scolaires. Si c'est un déplacement plus important, donc avec des nuitées par exemple, là on n'est plus que sur le temps scolaire, donc il faut bien sûr l'autorisation des parents, mais qu'il la faille ou qu'il ne faille pas cette autorisation-là, c'est évident que c'est tout à fait normal de les informer, de leur expliquer les objectifs, le programme précis. Les parents on est en coéducation avec les parents, hein, bien sûr, donc ils sont informés.
D'accord.
Voire plus, ils sont parfois participants.
Vous avez évoqué aussi la question de la formation autour de l'information. Vous avez parlé de web radio, qu'est-ce qu'il en est actuellement? Parce que je sais qu'il y a des textes qui imposent notamment au collège, de maîtriser ces outils.
Alors, c'est quelque chose qui est en développement. Donc, il y a des responsables de l'éducation aux médias et à l'information qui sont dans toutes les académies, qui aident à ce développement-là. Il y a aussi les collectivités dans les collèges, donc évidemment les départements qui financent, qui interviennent. C'est quelque chose qui est en développement et qui, dans les établissements qui sont déjà dans ce dispositif, porte des fruits extrêmement intéressants parce que ça développe énormément de compétences pour les élèves. D'abord, l'esprit critique, évidemment, la connaissance des médias, tout le travail de recherche, de conception qu'ils doivent faire, l'expression orale, les compétences orales qu'ils développent. On ne parle pas n'importe comment et on n'improvise pas. Donc, c'est extrêmement formateur et il y a des web radios qui fonctionnent extrêmement bien. Mais ça serait plutôt ma collègue du CLIMI qui serait la mieux informée pour vous répondre.
D'accord. Ça me paraissait important de faire cette incise. Et puis, je vois aussi dans vos charges que vous êtes chef de mission du développement durable.
Oui, également. Alors, ça aussi, c'est un autre dossier. Ce n'est pas forcément associé, mais j'ai la chance pour moi que ça soit associé depuis des années parce qu'il y a énormément de ponts. La citoyenneté, et notamment la citoyenneté dans un monde durable, c'est extrêmement important. La citoyenneté écologique, qui est extrêmement importante. Donc, on fait beaucoup de ponts, mais c'est aussi un autre sujet. Il y a des référents dans pratiquement tous les établissements, des référents établissements qui sont des profs de différentes disciplines, qui peuvent être des gestionnaires aussi, des personnels de direction. Enfin, donc on a une représentation très différente et avec lesquels on est tout le temps en contact. Nous, on fait le lien avec des associations, avec les collectivités territoriales, on labellise les établissements. Là aussi, pour la citoyenneté, il y a un dispositif qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur, qui sont les aires terrestres et bientôt les aires fluviales éducatives. Donc, des élèves de collège ou d'école ou de collège, forment un conseil d'école avec la commune, avec un référent scientifique. Ils sont chargés de gérer un petit espace naturel qu'il aurait confié. Et d'abord de l'étudier, de comprendre son fonctionnement, de comprendre la biodiversité qui est sur cet espace naturel ou qu'il faudrait rendre à la nature. Ça peut être une friche par exemple industrielle qu'on veut rendre à espace récréatif par exemple, et ensuite dans un premier temps de l'observation, et ensuite ils doivent être des responsables, enfin proposer des solutions de gestion. Donc voir finalement avec la mairie, avec le parc naturel, avec telle ou telle structure dont dépend cet espace, comment ça pourrait se faire. Et là aussi, ils vont se confronter à des réalités. Il y a l'idéal, il y a ce qui est possible. Il faut aussi, ils n'ont pas tous les mêmes idées, il faut qu'ils s'entendent. Donc là aussi, c'est de la citoyenneté qui est appliquée donc finalement à l'écologie.
Très bien. Donc, je crois que nous allons rester là pour aujourd'hui. Nous aurons l'occasion de nous revoir autour de la thématique des mémoires et de la transmission.
Avec
donc,
grand
nous
plaisir.
Nous étions avec Madame Pascale Goutani, donc inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale en histoire-géographie. À bientôt sur Radio Shalom Dijon dans notre émission Mémoire et transmission.
Je vous remercie.